Et dans quatre murs, des pilules, des piqûres, ça va durer des mois. La folie comme seule loi, il faudra que ton angoisse paraisse se passe. Voilà l'intraveineux, la solution à cœur.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, avec André Bitton, on va parler de questions au gouvernement, des députés et d'autres choses. Bonjour André.
Oui, bonjour à tous. Alors, je représente donc le CRPA.
Attends, ton micro. Action sur la psychiatrie. Attends, alors, André, ton micro, il marche il pas. Il faudrait que je trouve lequel c'est.
Oui.
Voilà, vas-y.
Oui, c'est bon.
Oui.
Bon, donc je représente l'action CRPA, Cercle de réflexion, proposition d'action sur la psychiatrie, qui est une scission du groupe Information Asile formé fin 2010. Donc aujourd'hui, on va aborder quatre bonnes nouvelles, car en fait, on a des bonnes nouvelles. Alors l'ordre de développement sont les suivantes. Tout d'abord, une annonce du 22 janvier 2023 du Monde sur la géopolitique du macaque. En effet, la crise du Covid a créé, de par le marché chinois, a créé un manque mondial de singes macaques pour les essais médicaux et thérapeutiques. D'une part. Chose très curieuse, puisqu'il me semble que la France, au niveau psychiatrie santé mentale, réchappe de cette crise, puisque, le terrain d'essai, les cobayes, sont pas plus pas moins que les patients, le très grand nombre de patients, et parmi ces patients, un bon nombre complètement vautrés qui acceptent sans autre considération d'être des cobayes humains. Ce qui est absolument scandaleux. Donc, par rapport à cette géopolitique du macaque, avec cette crise mondiale de défaut de singes macaques pour les essais thérapeutiques, la France me semble en bonne position. C'est une bonne nouvelle et il y a lieu d'être cocardier. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle. Attendez voir, je place mes favoris. Dans une dépêche d'Ospimédia du 26 janvier... Du 26 janvier 2023, il est annoncé qu'enfin le risque suicidaire pour les établissements psychiatriques au niveau des assurances, au niveau donc du contentieux couvert pour les établissements de santé par les assurances, les assurances hospitalières, le sous-médical, etc. Ce risque suicidaire est enfin pris en compte dans la mesure où il y a de plus en plus de contentieux indemnitaires en ce qui concerne les hôpitaux publics devant les juridictions administratives lorsque des tentatives de suicide entraînant des séquelles très importantes ont eu lieu et avec défaut de surveillance, ou lorsque des suicides ont été réussis dans les établissements ou à partir des établissements alors que la personne était en prise en charge, entraînant la condamnation indemnitaire des établissements. Donc cela veut dire que pour que les affres des patients soient prises au sérieux, il est important de faire du contentieux indemnitaire. Parce que là, c'est pris en compte. Et donc, alors en quelque sorte, c'est une bonne nouvelle. Donc faites vos TS à tour de bras, suicidez-vous à tour de bras, du moment qu'il y a des ayants droit pour faire du contentieux, ça fera avancer le schmilblick. Deuxième bonne nouvelle. À quoi faut en venir? Alors, troisième bonne nouvelle, nous avons été appelés à une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un travaux intergroupe de gauche, l'intergroupe NUPES, et nous avons été conviés par la députée du Mans, éducatrice spécialisée à l'EPSM de la Sarthe, en dehors de ses fonctions de députée, Madame Élise Le Boucher. Bien. pour une audition. Alors, en ce qui concerne ce que les parlementaires de gauche voulaient introduire comme amendement lors des débats qui ont été avortés à coup de 49-3 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024. Or, ce débat a été littéralement avorté puisqu'à toutes les étapes, le gouvernement a fait jouer l'article 49.3 de la Constitution, c'est-à-dire que le gouvernement engage sa responsabilité, passe en force son texte, et si l'opposition n'est pas d'accord, elle dépose une motion de censure pour essayer de renverser le gouvernement. Bien. Donc à la base, on a été conviés, c'était le 9 janvier, donc à la base, on était quatre à accepter d'en être, deux psychiatres retraités d'ailleurs, Jean-Michel Kahn, docteur de la Briolle, et Natacha Guillet et moi. Puis bon, moi, j'ai vu qu'on nous demandait qu'est-ce que vous voulez dire, sur quoi vous voulez argumenter, avez-vous des demandes à faire? Donc moi, j'avais dit, j'ai des revendications à faire à titre personnel. Ce qui s'est passé pour moi la décade 2010 où j'ai fait de la représentation d'intérêt juste insupportable, je demande l'intervention de la députée, je demande qu'une réflexion soit lancée sur la question de la déstigmatisation des personnes psychiatrisées ou l'ayant été, les problèmes de réintégration, réinsertion, réhabilitation, de sorte qu'on sorte de la seule chronicité. Alors, là-dessus, il se trouve que, un des psychiatres s'est désisté, puis moi, voyant ce désistement, je me suis dit, moi, je boycotte, j'y vais pas. Je ne vais pas y aller dans des conditions pareilles. Je ne vais pas, encore une fois, faire que ma compétence, mon expertise soient exploitées alors que j'en ai pris plein la figure et que ces parlementaires refusent d'intervenir. Donc, ça, c'est juste pas supportable. C'est juste pas supportable. D'autre part, le regard qui m'est porté par les syndicalistes du terrain et qui nous est porté collectivement est un regard déshumanisant, féodal, néocolonial, insupportable, déshumanisant, il nous est porté dans l'ensemble de l'échiquier politique de gauche. Cette tarif syndicale, c'est juste pas supportable. Donc j'ai argumenté, j'ai développé mes arguments. Finalement, Natacha Guillet a maintenu sa présence puisqu'elle entend parler de son expérience de la pérédance où elle a eu quand même un certain nombre de contrats de travail dans des établissements, soit à l'intérieur, soit en extérieur, enfin en extra-hospitalier. Et donc, force est de constater que le moins qu'on puisse dire, c'est que le tarif syndical est appliqué et que les pères aidants qui rentrent en fonction, dans l'ensemble, se font rudement ostraciser. Rudement, c'est quand même, voire lodement, enfin quand même, c'est scandaleux ce qu'elle a développé à cette antenne. Donc, et puis hier, j'ai cette surprise, cette bonne surprise, alors que j'avais envoyé un mail conclusif à la députée Le Boucher, lui disant qu'il fallait tout de même réaliser, je vais lire le mail que j'avais envoyé, donc alors attendez, ce qu'il est ce mail. Ah voilà. Lui disant. Pour Madame Élise Le Boucher, députée France Insoumise, je réitère en votre direction le contenu suivant. Denis, prière d'écouter attentivement et de dire à tous celles et ceux qui sont autour de toi que ça suffit les blagues. Nous sommes passés en France dans un risque de dictature important dans lequel les anormaux sont ciblés. Il y a eu, durant la Deuxième Guerre mondiale, une extermination des anormaux. Bien. Mmh. Sur le front Europe centrale, c'est 300 000 morts. En France, c'est 50 000 morts. Le regard qui nous est porté fait que l'on peut dire, Denis, que si un plan d'extermination des anormaux bis s'était réitéré en France ou en Europe, la majorité des hospitaliers en psychiatrie exécuteraient ce plan.
Infirmiers, aides-soignants,
oui, etc. Ils exécuteraient ce plan en réclamant des effectifs supplémentaires. Alors, il y en a assez. Voilà. Ça, cette lutte, c'est absolument élémentaire. Donc, c'est le contenu du mail que j'avais donc envoyé. Et je concluais ironiquement, en tant qu'ex-adhérent de force politique de gauche parlementaire, solidarité, camarade. Donc, Madame Le Boucher, qu'est-ce que tu veux que moi, des gens comme moi ou d'autres, on fréquente les milieux politiques engagés, quand on sait que quand on y va, on se fait taper de mépris? On est ségrégué comme c'est pas possible. Rappelle-toi quand il y avait ici les gens du GEM, du groupe Tram de Seine-Saint-Denis, l'éducateur, le comportement de l'éducateur par rapport à moi. Enfin, c'est juste pas supportable à la fin. Donc il faut lancer des actions de déstigmatisation de tous les côtés. tu vois, y compris ici d'ailleurs, quelque part, enfin, franchement. Donc la députée Le Boucher hier répond à 16h27 à tous, hein, elle répond à l'ensemble des gens en copie, dont des journalistes. Je reprends la suite de ma collaboratrice. Étant en arrêt depuis plusieurs semaines, je n'ai pas pu trop suivre les échanges et je m'en excuse. Nous allons reprogrammer la rencontre à une nouvelle date quand j'en serai plus sur mon retour à l'Assemblée. Monsieur Bitton, je vais prendre le temps de lire vos mails et vous ferai une réponse plus détaillée. Excusez ce contretemps pour la rencontre initialement prévue le 14 février. Je vous proposerai une nouvelle date à mon retour. Donc il y a ça, et alors ce qu'on voit également, c'est que le docteur de la Briolle et moi, on a soutenu une thèse tout à fait... Alors nous, ce qu'on a soutenu comme propos d'ensemble, moi ce que j'ai soutenu pour le compte du CAPA, la base que j'ai soutenue est la suivante. Je vous confirme mon accord avec le contenu du mail du docteur Philippe Champagne de la Briolle, psychiatre honoraire des hôpitaux, sur la très très grande pauvreté du service rendu aux personnes, aux patients, dans la psychiatrie publique. Parce qu'après tout, c'est quand même un système de soins. Et c'est un système qui doit rendre un service. Même si c'est un service répressif, c'est aussi un service. Et puis après, il doit y avoir une prise en charge. Bon. Depuis fort longtemps, et sauf quelques secteurs tout à fait minoritaires, le service rendu aux personnes prises en charge par la psychiatrie publique est d'une telle pauvreté et induit de tels ravages dans la population concernée comme pour la société, maltraitance, déshumanisation, médicamentage des patients au lieu et place d'une prise en charge, que cela participe à produire ces monstres sociaux qui passent aux actes, dont les médias de masse se font l'écho et dont se servent les politiques dominants. Cette situation produit aussi des cohortes de personnes et de familles qui vous disent que leur vie a été cassée, broyée et salie par de prétendus soins psychiatriques. J'observe dans le livret dont vous nous avez envoyé un tirage, les amendements qu'ils envisageaient, dont le débat ayant été court-circuité dans le PLFSS 2024 par les 49.3 gouvernementaux, qu'on n'y trouve rien ou presque qui concerne la déstigmatisation des populations concernées par les soins psychiatriques. Rien non plus sur la nécessité de développer une politique de réhabilitation et de réinsertion des patients digne de ce nom, avec une démédicalisation évidemment nécessaire. On observe que certains professionnels liés à la Fondation Fondamentale ont pris cette orientation, les thérapies rétablissement, bien, et autres, mais ce n'est pas pour servir n'importe quelle option sanitaire et politique. Ces personnes et cette fondation servent un hygiénisme contemporain pour le moins contestable. La moindre des choses serait que la gauche parlementaire prône une dépsychiatrisation, déchronicisation, puisque l'on sait qu'un nombre très important de personnes chronicisées à vie, hein, à vie, oui, dans le circuit psychiatrique, dans ou hors les murs, pourraient très bien se réinsérer, notamment par un développement des pratiques de père aidance. Et notamment aussi par le bénévolat. On n'est pas forcé d'avoir à réaccéder au marché du travail, qui est d'une cruauté absolument incroyable, surtout pour les gens à côté de la plaque. Mais bon, développer une réinsertion par le bénévolat et par le fait de développer une créativité, des activités, même une production, ça peut aller aussi. Les fonds ainsi débloqués pourraient permettre de mieux concentrer l'effort budgétaire sur la prévention et sur les prises en charge elles-mêmes lorsqu'elles sont nécessaires et qu'elles nécessitent une concentration en moyens humains et en infrastructures. Parce que tout de même, les coûts directs et indirects de la santé mentale en France, c'est au moins 4,5% du produit intérieur brut, voire 5 à 6%. C'est-à-dire qu'au moins la fourchette basse, c'est 20 milliards d'euros directs assurance maladie et 100 milliards de coûts indirects. Fourchette basse. Bien. Or, notamment en coûtant, dans cette estimation, l'improductivité. L'improductivité, mais aussi parce qu'on est en train de changer d'indicateurs globaux, hein. Il faut savoir qu'au niveau des indicateurs production de richesse ou taux de pauvreté, au niveau des indicateurs internationaux, on est en train de passer du produit intérieur brut à un indicateur qui prenne en compte le taux de bien-être.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Bon, au niveau des calculs internationaux. Donc cela supposerait, par exemple, de se faire à l'idée que l'UNAFAM, les institutions hospitalières, les gestionnaires du handicap n'ont pas à tutorer et à incapaciter le processus d'autonomisation de la gestion et de la direction de la très ample majorité des groupes d'entraide mutuelle par les personnes psychiatrisées adhérentes de ces groupes d'entraide mutuelle, à rebours de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, pas un groupe d'entraide mutuelle n'est autogéré par les patients. Pas un. Or, le cahier des charges qui a été négocié avec les acteurs du handicap et les organismes tuteurs des groupes d'entraide mutuelle implique une obligation d'aller vers une autogestion.
Et là, ben, on est en Seine-Saint-Denis, il faut pas, hein, faut préserver l'infériorité et l'infériorisation des gens, hein. Faut pas se gêner. Donc ça supposerait d'ouvrir une concertation sur la mise à effet d'une démocratie sanitaire digne de ce nom en ce qui concerne la psychiatrie. Mais sont positionnés contre cela, et là je me suis adressé à une députée France Insoumise, si j'ai bien compris, des leaders d'opinion tels M. François Ruffin.
Oui.
Bon, M. François Ruffin, c'est le corporatiste, la défense des seuls intérêts des salariés, des établissements sanitaires et médico-sociaux. Le reste, il ne veut pas en entendre parler. Bon. France Asso Santé, le CIS, l'UNAS, nombre d'éléments de la direction de l'UNAFAM, etc. etc. Si les gens ne sont pas d'accord du côté psychiatrisé, ils doivent s'adresser au gouvernement et aux directions. Et en quelque sorte, être des agents de la direction et de l'administration centrale pour aller en contre de genre d'immobilisme. Quoi qu'il en soit, je trouve que ces livrets que vous nous avez envoyés concernant des amendements relatifs à la santé mentale dans le cadre des débats avortés sur le projet de loi de financement sécurité sociale 2024 est très silencieux sur ces questions de démocratie sanitaire et de déstigmatisation des populations concernées par un suivi psychiatrique. Madame Le Boucher, je me permets de vous poser ces questions, trois questions. En équité, est-ce que l'équité, donc en droit, quoi, en étant équitable, bon. Est-ce que ça vous convient que des millions de personnes dans ce pays soient déshumanisées, décérébrées, livrées à la vindicte publique et que ces personnes n'aient que cela à vivre du moment que ça fasse de l'emploi ? Bon. Deux, est-ce que ça vous va en équité que ce qui compte sont les intérêts des salariés d'un tel système et que les personnes psychiatrisées ou l'ayant été n'aient pas leur mot à dire, sauf à être des fous et des folles de service sans autonomie, qu'on fait donner pour mieux discréditer la parole des personnes concernées et pour mettre en avant la parole et les prises de position de professionnels et de leurs représentants, lesquels tiennent toute la place et sont seuls à être crédibilisés ? Troisième question, en équité, nos déshumanisations vous conviennent-elles ? Est-ce pour des personnes de votre entourage une jouissance malsaine basée sur l'instinct de domination, comme on peut le constater si souvent dans les relations professionnelles de la psychiatrie patient ? En conclusion, je trouve que si la psychiatrie en France sombre étape par étape dans une telle déchéance, c'est qu'il y aurait lieu de changer d'approche et de refonder un tel système, ce qui passe par un changement radical dans le regard qui est porté aux personnes concernées. Alors, le docteur Champagne de la Briolle, qui a été, ben, du moins qui s'est pris, il a dû clore sa carrière sur du contentieux, hein, et qui n'a rien de gauche. Hein. Politiquement, c'est pas un homme de gauche du tout. Bon, alors, qu'est-ce que j'en ai fait ? Donc, lui, voilà. Alors, madame la députée lui dit « Psychiatre honoraire des hôpitaux » pour madame Le Boucher, car c'est le titre officiel et un rien ronflant d'un psychiatre retraité. J'ai accepté l'invitation d'André Bitton. Bon, séance de réflexion. Bien. Alors, la lecture des mails d'André Bitton montre que derrière l'offre de collaboration que vous lui avez faite surgit trop rapidement la crainte d'une exploitation. Ce qu'il voulait, c'est exploiter mes capacités. Bien. Mais moi, je m'en suis pris plein la figure. Donc si c'est exploiter mes capacités sans qu'il y ait remise en cause de la ségrégation que je me suis pris, alors franchement, c'est pas la peine, hein, tu vois. Bon, donc je crois raisonnable de proposer un moratoire pour la séance, alors bon, proposer, mais face à la crise sans précédent de la psychiatrie publique, car on vit une crise historique dans la psychiatrie publique en France, c'est une crise historique, oui. C'est inédit. Bon. Après 40 ans d'exercice hospitalier spécialisé sur divers sites, je pense que l'origine en est décrite pour l'essentiel par Michel Foucault dans l'essence de la clinique, la constituante en 1792, à l'instauration de la Première République, hein, qui a duré bon, voilà, quelques années, préconise que les médecins soient renvoyés dans le privé et que l'hôpital public recrute des officiers de santé de formation réduite suffisant pour un vain peuple. On n'a pas besoin de médecins pour le menu pape qui est psychiatrisé, dont on n'a rien à foutre. On les pique aux fessiers, tu vois. Donc des officiers de santé suffisent. Il n'y a pas besoin de gens dûment bien formés. Alors nous y sommes. Quand j'ai quitté le PSM du Loiret et Fleury-des-Aubrais, un praticien hospitalier sur deux n'était pas psychiatre. Il recrutait, la direction recrutait et affectait des médecins non psychiatres, vu la carence en psychiatres bien en bonne et due forme, plaf, pour les affecter. Donc, n'était pas psychiatre, selon la qualification ordinale. Après le regain magnifique de la réforme Debré, les CHU 58, la lente mise sous tutelle directoriale du corps médical étape par étape avec la loi HPST de 2009 qui met le pouvoir d'affectation sur poste dans les mains du directeur, et qui prive qui casse l'autonomie du corps médical hospitalier, des médecins du cadre. Donc la lente mise sous tutelle directoriale du corps médical, ce qui est un mouvement de réforme hospitalière continue après les années 80, et puis voilà, à partir de 91, la réforme hospitalière 91, jusqu'à la consomption, c'est-à-dire la mort lente du pouvoir médical, mais du pouvoir médical également de l'autonomie par rapport à une direction hospitalière de type direction d'entreprise. C'est-à-dire, vous exécutez des protocoles, on vous fout en l'air. Ouais. Donc, il n'y a plus d'initiative possible. Habiteriez-vous dans un immeuble qui n'aurait pas été conçu par un architecte, ou seriez-vous l'usagère du métro si aucun ingénieur du génie civil n'en avait validé les étapes de construction? Ma contribution en substance, la voici. Le concours de PH, de praticien hospitalier, a été transformé en casting par le CNG, le Centre National de Gestion, en 2011. On veut des collaborateurs dociles. On les a. Il n'y a plus d'énergie soignante dans les hôpitaux en psychiatrie. Voilà. Des prescripteurs, on en a. Des médecins, on en cherche. Et ça, il a raison. Il a raison, puisqu'il y a une vacuité du soin en bonne et due forme qui est donc assez terrifiante. Donc on en est là, et donc en fait, nos récriminations finissent par être prises au sérieux, en quelque sorte. Hein. Donc alors on a ça. Alors maintenant... il y a eu le fait que Mathieu Bellassène, avec qui on collabore, docteur Bellassène, a été appelé en audition pour la mission sur les urgences psychiatriques qui sont en crise, dirigée par la députée Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, et par une parlementaire du groupe majoritaire qui est anciennement cadre de santé. Alors là encore, j'avais envoyé ma contribution. Alors, à cette audition, à la base, il devait y avoir... C'était une table ronde à huis clos, avec les deux députés chargés de cette mission, et les acteurs, dont Marion Le Boyer, le fondamental, quelqu'un d'autre, bon, voilà. Et c'était à huis clos. Puis, finalement, ils ont restructuré cette table ronde, et ils ont évité de mettre Mathieu Bellassène direct en face de Marion Le Boyer pour éviter...
Que ça fasse des étincelles.
Que ça fasse, oui, c'est ça, absolument, quelques étincelles. Donc moi, là encore, ayant appris cela, alors Mathieu Bellassène a préparé un texte très costaud, très, très argumenté, d'accord, en 25 feuillets, qu'il va déposer comme contribution. Moi, j'avais donc décidé de déposer une contribution et d'envoyer un témoignage d'une de nos adhérentes, dont on avait parlé ici, du Maine-et-Loire, qui en 2022 était passé, en juillet 2022 était passé sur Malaise par les urgences du Kremlin Bicêtre, où au vu de ses antécédents psychiatriques, elle a été mise en contention, ligotée et envoyée en soins périliminants sur son secteur, à savoir à Cholet, où elle a été maintenue un an en mesure de périliminant. Un an. Sur antécédents. Hein. Je suis intervenu, j'ai trouvé son thèse vraiment très bien. J'ai demandé, j'ai tenu au courant de cette affaire la contrôleuse générale des privations de liberté. J'ai été désigné personne de confiance pour avoir, parce qu'il n'était pas possible de faire du contentieux, pour avoir un changement de psychiatre. Alors, elle a eu un changement de psychiatre, mais sous condition de réhospitalisation sous contrainte à un moment donné et de hausse du traitement. Bon, je suis quand même un peu carabiné. Mais finalement, ça s'est fait. Mais je veux dire, ça s'est fait étape par étape. Mais là, on voit qu'aux urgences, une personne à profil psychiatrique passe par les urgences et court tous les risques. Mais on court tous les risques. Tu vois, c'est vraiment... Donc, ma contribution était la suivante. Elle est succincte. Et je vais évoquer la contribution de Mathieu Bellassène. Je profite de sommeil pour vous préciser que le corporatisme... Ah, oui, alors, attendez. Non, ma contribution, d'abord, c'était ça. Madame la députée, le docteur Mathieu Bellassène, avec qui nous collaborons et qui est partisan que les personnes concernées, les personnes psychiatrisées et psychiatrisées, doivent être partie prenante des processus de décision et de concertation relatives à la ligue psychiatrique du pays, nous ayant informé de son audition le 8 février prochain dans le cadre des travaux de la mission d'information que vous dirigez. Ce mail est adressé à Madame... Madame, comment dire, Madame Rousseau, Sandrine Rousseau et sa collègue députée parlementaire Renaissance. Donc, dans le cadre des travaux de la mission d'information que vous dirigez, je me permets de vous faire parvenir un document susceptible de concerner vos travaux. Il s'agit d'un témoignage publié sur notre site internet d'une de nos adhérentes qui a sollicité que les secours soient appelés, qui n'était pas opposante. Un protocole lui a été appliqué aux urgences du CH Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne, un 8 juillet 2022 parce qu'elle y était connue pour des antécédents psychiatriques, comme des millions de personnes dans le pays. Bien. Elle a été ainsi placée sous mesure de soins périlliminants sans autre forme de procès et sans que soit entendu ce qu'elle avait à dire. Elle m'a désigné personne de confiance début 2023 afin qu'elle obtienne un changement de psychiatre et que sa prise en charge soit plus humainement appropriée, alors même que depuis son admission, ses problématiques personnelles n'avaient résolument pas été prises en compte par le service de psychiatrie du CH de Cholet où elle avait été transférée. J'avais saisi Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté dans cette affaire début 2023, qui avait demandé à être tenue au courant. Parce que bon, c'est assez intéressant qu'un aidant intervienne personne de confiance avec bon, quelques arguments juridiques en faisant un peu de bruit autour. Est-ce que ça marche? Est-ce que les hôpitaux, les établissements psychiatriques acceptent la personne de confiance avec un rôle plein et entier? C'est ces tests, puisque le contrôle général des privations de liberté à plusieurs reprises dans des rapports annuels a rappelé le fait que la personne de confiance n'était pas admise dans les établissements psychiatriques.
Ah.
Voilà. Donc c'est intéressant de tester cette piste. Donc ce n'est qu'un an plus tard que cette mesure de soins périlliminants qui n'aurait pas dû avoir lieu a été levée après que le changement de psychiatre que nous avions demandé ait eu lieu. Mais ce changement de praticien a été conditionné à une réhospitalisation temps complet sous régime de contrainte, assortie d'une hausse du traitement neuroleptique au titre de ce qu'on doit considérer comme étant une sanction psychiatrique pour quérulence procédurière. Bien. Dans son témoignage, cette adhérente décrit la façon dont elle a été traitée ou maltraitée aux urgences du CH Kremlin-Bicêtre, puis ensuite, la description qu'elle en fait devrait retenir votre attention. Nous estimons que tout est à revoir dans ce genre de circuit, et notamment le fait que les personnes concernées n'ont même pas voix au chapitre. Donc, une série de questions se posent à mon sens. Je ne suis pas seul à me poser ces questions. Depuis l'ouverture des institutions psychiatriques et médico-sociales au début des années 70, n'a-t-on pas constitué en métropole une infra-humanité médicalement diminuée, sous couvert de prise en charge psychiatrique, cette population n'ayant même pas cette possibilité ou même ce simple droit d'être ou d'accéder à une humanité à part entière? Ne s'agit-il pas en l'espèce de la constitution d'une population de plus en plus vaste, de plusieurs millions de personnes, de statut social comparable à ce qu'a été le statut de l'indigénat tel que codifié dans le code de l'indigénat? Ce code a été mis en œuvre tout d'abord en Algérie, puis étendu à l'ensemble de l'empire colonial français à la fin du 19e siècle, de la fin du 19e siècle à son abrogation nominale en 1946 sur pression des forces alliées. Peut-on seulement en sortir? J'ai soumis ces questions à un universitaire franco-algérien gouvernemental sur la base des travaux de Franz Fanon, 25-61, qui était psychiatre tenant de la psychothérapie institutionnelle. Cet universitaire a malheureusement validé cette thèse. Madame la députée, en tant que Français, nous n'avons rien de tel à supporter. La moindre des choses serait qu'on aille non dans le sens d'une déchéance technicisée et accentuée de la discipline psychiatrique et de la population concernée, mais dans le sens d'une amélioration. Là-dessus, il y aurait un truc à faire qui est tout bête. Et pour là, si c'était déployé, il trouverait de l'embauche, il trouverait des gens pour accepter de bosser dedans. C'est jumeler la plupart des services d'urgence de maisons de répit.
Oui.
Tout bêtement. Et là, il y aurait des soignants qui accepteraient de bosser là-dedans parce que c'est correct comme façon de bosser. Bon, d'une part, et d'autre part, ça permettrait... Parce que le problème, c'est que si des gens affluent au service d'urgence, c'est qu'il n'y a plus rien qui tient avant.
Oui.
D'accord ? Bon. C'est bête et con. Hein. Bon. Bon. Donc, enfin, bon, ça, j'ai demandé à Mathieu Bellassène de défendre cela. Alors, par ailleurs, j'ai envoyé un mail complémentaire, et cette fois, c'était un peu plus tard dans la soirée. Je profite de ce mail pour vous préciser que le corporatisme, Madame Sandrine Rousseau, dans ce domaine très particulier qui est la psychiatrie, est tellement ancré qu'au long des actions et interventions de représentation d'intérêt pour les droits des patients que j'ai dû faire durant la décennie précédente, de 2017-2020, j'ai été vu, perçu et stigmatisé, avec répression à la clé, dans et par les représentants et membres des appareils syndicaux et associatifs de gauche socialiste, marxiste, néo-marxiste ou alternatif, comme un simple fou de service, un gêneur, un paranoïaque, en plus d'être un vulgaire lumpen prolétaire, totalement méprisable et issu des bas quartiers, qu'il s'agissait de faire servir un temps, puis d'écarter et de jeter. à la notable exception des dirigeants de Sud Santé Sociaux, du syndicat de la magistrature, du syndicat des psychiatres des hôpitaux, Dr Isabelle Montet, de la responsable rapidement déposée du groupe de travail santé bioéthique de la Ligue des droits de l'homme, puis du Dr Mathieu Bellassène, nous avons eu ces gens-là comme quasi principaux adversaires sur cette question de l'entrée du droit sur ce terrain. On les a eus comme adversaires. Nous avons été marqués, singulièrement moi, n'est-ce pas, d'un mépris familier de type incoercible, de type réflexe. Je fais partie des personnes psychiatrisées, ex-psychiatrisées, militantes au très long cours, qui ont été confrontées en 1997, lorsque l'association Advocacy France a été développée, à une déclaration d'un psychiatre éminent qui faisait partie du comité de soutien d'Advocacy France et qui était membre de l'Académie de médecine, qui nous a sorti et qui m'a sorti « Vous avez des problèmes de parité ». Vous avez des problèmes de parité. Cette remarque et son contenu n'ont jamais été démentis depuis. La ségrégation sociale réflexe que porte à l'endroit des patients et anciens patients de la psychiatrie la très ample majorité des professionnels de la psychiatrie, du social et désormais du droit, depuis la judiciarisation des hospitalisations sans consentement, est effrayante, je dis bien effrayante. De par cet état de fait, entre autres, mais aussi à cause de cela, les pires risques sont devant nous. Donc, alors, il y a ça. Alors, de son côté, Mathieu Bellassène est appelé en concertation après-demain. Alors, on vient de lui envoyer un questionnaire vraiment très détaillé. Je vais le synthétiser. Et donc, il a construit un texte en 25 feuillets avec en détaillant chaque point de sorte que la table des matières soit aussi détaillée et praticable que possible. C'est-à-dire que si des gens qui veulent faire une lecture rapide de ce qu'il a à dire veulent survoler ce texte, ils vont pouvoir le faire à partir de la table des matières. Puisque chaque feuille prête lieu d'abord un chapitre, une tête de chapitre, puis après chaque page est détaillée. En fait, dans les exposés de droit, il faut savoir que c'est chaque paragraphe qui est noté. Paragraphe 5, paragraphe 10, etc. Dans les exposés faits par les profs de droit ou par les étudiants thésards. D'accord. Et donc ça, alors c'est-à-dire qu'on doit tout justifier, quoi. Tu vois, oui. Bon, mais en fait c'est assez pratique ainsi. Alors le questionnaire qu'il a reçu, on voit qu'il est il est passablement bétonné, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans les détails. Après, qu'est-ce qu'ils en feront, hein? Donc, mission d'information sur la prise en charge des urgences psychiatriques. Rapporteur, Madame Nicole Dubré-Chira, députée Renaissance, mais qui a été cadre de santé en hôpital. Mais bon, cadre de santé en hôpital, ça ne veut rien dire, parce qu'un hôpital général, c'est pas la psychiatrie. Les disciplines somatiques et la psychiatrie, c'est pas la même chose. Alors, le préliminaire, chaque organisation ou personne dispose de 5 minutes environ pour un propos liminaire avant d'échanger avec les rapporteurs et les autres députés éventuellement présents. Les intervenants sont libres d'envoyer à Mme Audrey Asselineau, c'est des administrateurs, ce sont des administrateurs de l'Assemblée nationale. Des gens très pointus en droit, hein. C'est des gens très pointus qui aiguillent les députés et les personnels. Hein. C'est des gens qui connaissent le droit consti, etc. Ils sont vraiment... Là, vous pouvez faire ci, là, vous pouvez faire ça, là, vous pouvez pas, etc. Ils jouent un rôle très important. Donc, ce sont des administrateurs, avant ou après l'audition, toute contribution utile. Alors là-dessus, après, c'est « Pourriez-vous dresser un état des lieux de la santé mentale de la psychiatrie en France ?» Sur les urgences, etc., etc. C'est très, très bien. Bon, on verra ça un peu plus tard. Fais une pause.
Eh bien, on va écouter l'ambulance générale de SNG.
Je décharge mon vécu, en partie le leur. J'ai plus côtoyé les cures de cam et les rechutes de cheveux, poils de chatte, que le plein flot de la picouse. Et les yeux injectés de ces types et meufs, à volonté dissoute, immolés dans l'alcool, les triples sexes contre du blé. J'ai pioncé en bordure du pieu de bohémiens qui schlinguent la misère, atterris par mégarde ou par dépit dans les douves de la PHP. Qui ne parlaient pas la langue mais qui crevaient la dalle, et terminaient les plateaux de saillantes anorexiques mineures, échouées sur le chariot entrebâillé frugal du couloir de pédopsie. Je suis slam en blouse, en masque et en charlotte. Au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flow, cela coule tranquille entre deux frictions. Je déboîte du texte avant que ne débarquent les toubibs de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicaux, bon rythme métrique, le jargon qui convient au sermon des appels Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Je regarde, à l'aise, en tailleur, lance des cieux d'hiver, à la lucarne scellée de l'époustouflant mauve. Sous les sirènes, des hélicos montent au blanc, le toit du bloc à 18h, on soupe. En file indienne s'effondre des filles, pas plus lourdes que des sacs à croquettes. On leur file des doses d'étalons en tablette, le coup du bar à cocktail pseudo-anxiolytique. Je slame en blouse, en masque et en charlotte. Au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flot cela coule tranquille entre deux frictions. Je déboîte du texte avant que ne débarquent les toubibs de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicos, bon rythme métique, le jargon qui convient au sermon de l'appel Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale. Qui plan la panacée des planches à roulettes, des pères facultaires qui pompent sous prescription, post-scriptum des effets secondaires à blémir debout. Tout ça passé sous silence en tube aseptique. Les cellules survolent des veines explosées au phosphore. Mais les murs sont mat de tabou sur des lits à grillage. L'épargne tutelle à la chaise électrochoc. Les rasades de choc à pic de 7 à 8 à 10 aussi. Quelques briquettes hyper caloriques démoulées en pot-pot. On se défrite au monde social, fricoter les hyènes et les chétanes. Sous le blaze MDPH, la loque handicap, impasse, muraille, expansée, l'infirme déphasé, endurci de l'époque et de cloques post-traumatiques. Je suis en blouse, en masque et en charlotte. Au chevet des patients désaxés par les médocs. Mon flot cela coule tranquille entre deux frictions. Je déboîte du texte avant que ne débarquent les toupies de service. Je raconte ma life aux chauves, aux toxicos, bon rythme métique, le jargon qui convient au sermon des appels Hippocrate. L'ambulance générale. L'ambulance générale. L'ambulance générale.
Voilà, c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la Fédération anarchiste.
Ah oui, je viens d'écouter, André, hein, je viens d'écouter ce morceau de SMG, disons, il est très très beau, hein. Il prend bien en compte ce qu'elle a vécu. Donc alors, le questionnaire que Mathieu Bellassène a reçu, qui m'a transmis, est donc par rapport aux travaux de la mission d'information sur la prise en charge psychiatrique, sur les urgences psychiatriques, pardon, rapporteur Nicole Debré-Chira, ancienne cadre de santé hospitalière, députée Renaissance, majorité, et Sandrine Rousseau, député Europe Écologie Les Verts. Alors, pourriez-vous dresser un état des lieux sur la santé mentale et la psychiatrie en France, ainsi que des grandes tendances qui ont marqué leur évolution, structuration et politique publique, sectorisation, gouvernance, financement, adaptation aux évolutions sociétales? Quelle part les urgences psychiatriques occupent-elles dans cet état des lieux? Une part de plus en plus importante, et c'est tout à fait désagréable. Déstructuration des CMP, des hôpitaux de jour et des structures d'amont. Si on va aux urgences, c'est qu'il n'y a rien d'autre avant. Quelles sont les spécificités des urgences psychiatriques par rapport à d'autres types d'urgences médicales? Pourriez-vous, alors sur l'organisation des services concourant à la prise en charge des urgences psychiatriques, pourriez-vous présenter brièvement l'organisation de la prise en charge des urgences psychiatriques en France et l'évolution de celle-ci? Comment cette prise en charge s'insère-t-elle dans le paysage des établissements publics privés? Quelle est votre appréciation du fonctionnement des différents services concourant à la prise en charge d'urgences psychiatriques? C'est pour un concours, ça? Mon vieux feu de solide. Comment ont évolué les capacités d'accueil, nombre de lits de ces services au cours des dernières années et pourquoi? Certains ont-ils fermé, le cas échéant, dans quelles conditions? Ventilation sur d'autres services? Dans quelle mesure ces services vous semblent-ils manquer de personnel ou de personnel formé? La question est super. Ces services vous semblent-ils manquer de personnel ou de personnel formé? Bien. Le cas échéant, de quel type de personnel, psychiatres, paramédicaux, les conditions de travail apparaissent-elles comme un frein au bon exercice des missions des personnels des services d'urgence psychiatrique? Les conditions de travail apparaissent-elles comme un frein au bon exercice des missions des personnels des services d'urgence psychiatrique? Ben, en effet, si on leur envoie des gens complètement pétés, qui sont passés 3-4 jours par l'isolement contention et qui sont complètement traumatisés, comment la prise en charge va pouvoir se faire, hein, une fois arrivés? Alors, sur la prise en charge des personnes dans le cadre d'urgence psychiatrique, pourriez-vous présenter brièvement les principaux parcours de prise en charge d'une personne dans les services d'urgence psychiatrique? Quel regard portez-vous sur l'articulation entre la prise en charge par les services d'urgence psychiatrique et le suivi au long cours des patients en psychiatrie? Toutes les situations d'urgence psychiatrique vous semblent-elles prises en charge par les services d'urgence psychiatrique? Avez-vous connaissance de situations dans lesquelles des patients auraient manqué de soins adaptés à leur pathologie, et si oui, dans une situation d'urgence ou dans le cas d'un suivi au long cours? Bien, oh ben ça, alors là. Hein. Observez-vous des disparités de prise en charge, pardon, notamment selon des critères sociaux, territoriaux ou de genre? Comment évaluez-vous la prise en charge des urgences psychiatriques liées à des populations aux besoins spécifiques, infanto-juvéniles, gérontopsychiatrie, en milieu pénitentiaire? Les droits des personnes prises en charge vous semblent-ils systématiquement garantis? Point d'interrogation. Nous, ce qui nous arrive, on peut dire très prudemment non. Sinon, comment préconisez-vous de les garantir? Sur les politiques publiques liées aux urgences psychiatriques, quel regard portez-vous sur les politiques publiques récentes liées à la santé mentale et à la psychiatrie? Feuille de route gouvernementale, dispositif Mon soutien psy qui est totalement insuffisant, organisation territoriale, réforme des soins psychiatriques sans consentement, réforme du financement, les IPA en psychiatrie, les infirmiers en pratique avancée, quels effets vous semblent-elles produire sur les urgences psychiatriques? La France se singularise-t-elle en matière d'urgence psychiatrique? Gagnerait-elle à s'inspirer des politiques publiques conduites dans d'autres pays, et si oui, lesquelles? Oui, Québec. Mmh. Québec, Royaume-Uni, Finlande, Europe du Nord, en Europe du Nord, oui. Ça, c'est une question tout à fait légitime. Au niveau du regard porté aux personnes psychiatrisées, la France est arriérée, tout bonnement. Au niveau strictement juridique, il y a une espèce de cavalcade avec une hypertrophie procédurale, quoi. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement a réformé dans le sens d'une judiciarisation des internements, mais par des législations très compliquées avec des choses trappes, des législations très procédurales. Quels enjeux prioritaires pour les services d'urgence psychiatrique ou axes de travail préconisez-vous d'aborder dans le cadre de cette mission d'information? Estimez-vous que les parcours de prise en charge de l'urgence psychiatrique répondent aux besoins actuels et futurs des personnes et de la société? Sinon, quelles réformes préconisez-vous? Donc on voit que c'est un questionnaire pointu. Moi, je sais que lors d'auditions pour des travaux parlementaires sur la loi Touraine en 2016, en 2015, on avait eu une audition au Sénat par le sénateur Millon du Vaucluse. On avait eu un questionnaire détaillé auquel moi j'avais répondu de façon technique. D'ailleurs, j'avais été un des quelques des personnes représentant les usagers à répondre de façon technique à un questionnaire technique. Tu vois, mais là, c'est franchement assez détaillé. Mais maintenant, une question centrale. Pourquoi passe-t-on par les urgences en France? Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, c'est que les hôpitaux psychiatriques ont été légitimement déstructurés, bon voilà, fermeture des lits, etc., etc., mais sans qu'il y ait ouverture à due concurrence dans le territoire, dans l'extra-hospitalier, de structures de type prévention post-cure. Voilà. Au contraire, elles ont été laminées et des fonds publics ont été distribués comme cela, notamment pour les groupes d'entraide mutuelle à titre de palliatif. Mais on ne peut pas dire que les groupes d'entraide mutuelle assument naturellement une fonction en soi thérapeutique. Bon, c'est essentiellement une fonction occupationnelle, qui est très importante, une fonction d'entraide, mais voilà. Donc, en fait, la gestion des personnes qui vont mal au plan psychiatrique étant centrée sur la crise, l'hôpital ne recueillant que la crise, faute de dispositifs de prévention et faute de dispositifs après l'hospitalisation, faute de tissus de solidarité express dans la cité avant, dans les villes avant, eh bien, les gens affluent mal ou très mal aux urgences. Et comme en plus la situation est cataclysmique dans les services d'urgence, les urgentistes n'arrêtent pas de tirer des signaux d'alarme, bien, et comme eux, dans les services d'urgence, ils entendent se débarrasser et fonctionner de façon sécuritaire, puisqu'ils se prennent... Il faut savoir que les hôpitaux se prennent la détresse dans la société en pleine figure. Les hôpitaux, ils se prennent ça. Il faut savoir que quand ça ne va pas, il y a un point qui, jusque-là, était ouvert 24-24, c'était les urgences d'un hôpital. Bon. Donc, en fait, faute qu'il y ait autre chose, les gens sont adressés ou vont là. Et par principe de précaution et par principe sécuritaire, les personnels des services d'urgence suivent des protocoles qui sont des protocoles complètement... qui sont des protocoles atterrants, enfin, c'est effrayant, par rapport aux personnes à profil psychiatrique. Et là, par principe de précaution, les gens sont ligotés, cassés, matés, médiqués et envoyés en voiture Simone de façon absolument horrible. Par ailleurs, les astreintes de garde dans les hôpitaux et singulièrement dans les services d'urgence fait que, en soi, c'est dangereux de passer par les urgences parce qu'on peut tomber sur des personnels d'astreinte qui sont là depuis 36 heures sans avoir dormi. Et ça, on oublie ce critère. Parce qu'il y a des gardes, il y a des soignants qui sont d'astreinte 48 heures. Des internes.
Et la crise, ça peut se prévenir?
Ben justement. Justement.
C'est des prémices.
C'est-à-dire, et c'est ce que Mathieu Bellassène va défendre dans son livret, et c'est pour ça que, de toutes les façons, il faut mettre en avant les lieux de répit, c'est que, d'abord, il y a lieu de pratiquer des désescalades. Et on n'accueille pas le public psychiatrisé ou à profil psychiatrique, c'est pas n'importe quel public. Donc en fait, il doit y avoir un accueil spécialisé. Mais même, la question se pose de savoir si on doit en soi envisager cet accueil spécifique dans les services d'urgence, parce qu'à la base, enfin moi quand j'étais en suivi psychiatrique, il n'y avait pas besoin des services d'urgence. Tout court. Parce qu'il y avait les CMP, parce qu'on pouvait être fait à l'hôpital, parce que bon, etc. On n'en avait pas besoin. Ce dont on avait besoin, moi je m'en suis servi personnellement, les années 90, c'est le CPOA.
Oui, le CPOA,
c'est
le
CPOA. Oui. Mais maintenant, ils viennent vous dire au CPOA, et c'est pareil, dans les autres services, c'est pire que tout. Ils viennent vous dire, oui, vous êtes mal, ben écoutez, si vous êtes mal, ça attendra que, bon, on vous délivre une ordonnance pour votre CMP, comme ça vous aurez rendez-vous dans 3 mois, ou bien bon. Ah ben oui, vous êtes mal, bon, ben faut faire quelque chose, on va vous débloquer un lit, donc on vous met sous périmine. Vous mettez sous contrainte.
Ah oui. Bon. Il y avait aussi les centres d'accueil...
Les centres d'accueil de crise.
De crise, voilà.
Alors, il faut savoir que l'amplitude horaire pour un bon nombre d'entre eux a été réduite.
Oui.
L'intérêt des... Et puis ça suppose des personnels, hein, parce que c'est 24-24. Et là encore, ça suppose... des personnes en question, je suppose qu'ils soient formés. Or, le problème, c'est que servent dans les secteurs psychiatriques de gens qui pratiquement n'ont plus de formation spécifique, d'une, et de deux, des gens qui sont astreints de par leur direction à suivre un protocole. C'est-à-dire que vous êtes accueillis sur le mode protocole. Alors là, c'est le protocole 1, B3, 5, 6, donc là, et si vous ne collez pas, bah, alors là, ça risque de barder pour vous. Ah oui, si vous ne collez pas, vous êtes inadapté, il y a le protocole D, 5, 6, qu'en avant, j'appelle la sécurité. Donc voilà, on en est là. Donc se pose même la question de savoir s'il faut prôner que ces services d'urgence soient étoffés. Parce que c'est peut-être pas là qu'il faut prôner l'effort.
Oui.
Bon. Donc voilà. Donc alors, on en est là. Donc, somme toute, c'est... Il y a un calendrier, c'est assez chargé, mais l'on reste ce qu'on avait vu le 10 janvier dans l'émission à laquelle j'avais participé. Ça reste dans les préoccupations sécuritaires du gouvernement.
Oui, tout à fait.
D'une. Et de deux, par rapport aux revendications syndicales des hospitaliers, on reste dans les revendications syndicales, d'effectifs, etc., etc. Bon. Donc là, il y ait ce point sur la table, vous permettez, la déstigmatisation, les droits des patients, on ne peut pas continuer sur une optique pareille. Mathieu Bellassène va abonder dans ce sens également en prenant une autre psychiatrie. Donc ça paraît tout à fait élémentaire d'y aller. Voilà.
Oui, alors j'avais regardé un peu le compte-rendu de cette de la question, des questions au gouvernement sur l'état de la psychiatrie. Et j'avais et par exemple, alors j'avais noté, pris quelques notes. Par exemple, l'intervention de Madame Elsa Faucillon de GDR NUPES, qui parle des alertes lancées par des professionnels sur les conditions indignes d'accueil et de soins des usagers, confirmées par les constats des rapports de la Contrôleur Général des lieux de privation de liberté, sont ignorées, voire désavouées. Il y a une omerta sur les pratiques. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé signale que 42 personnes sont décédées des suites directes de pratiques de contention ayant fait l'objet d'un signalement aux autorités entre 2011 et 2019. Or, ces pratiques de contraintes médicamenteuses, légales, physiques et chimiques augmentent constamment. Aucune réponse politique n'a pourtant été donnée à cet usage en tout point contraire aux droits et libertés fondamentales des patients. Les agents publics, surtout en psychiatrie, se saisissent rarement de l'article 40 du Code de procédure pénale, parfois par méconnaissance, mais souvent par peur de l'institution. Alors, c'est quoi cet article 40 ?
Alors, l'article 40, c'est l'obligation où tout agent public se trouve, toute personne en charge d'une mission de service public, en fait, ou agent public, donc fonctionnaire, de préférence titulaire, donc se trouve de se mettre en contact sans délai. Sans délai, c'est compliqué en droit. Sans délai, avec l'autorité de poursuite, donc les services du procureur de la République, s'il est mis devant témoin ou mis au courant dans l'exercice de ses fonctions d'un délit ou d'un crime. Bien. Et par ailleurs, c'est une obligation. Et cela va de pair avec un article du code, je ne me rappelle plus, du code de la fonction publique, il me semble, sur ce qu'on appelle les baïonnettes intelligentes, à savoir que un agent public, donc un fonctionnaire contractuel vacataire, ou vacataire même, ça s'applique plutôt dans les cas de situation de crise et de guerre, mise devant un ordre manifestement illégal, n'est pas tenu de le suivre.
Ah oui, oui.
Bon. Bon, donc, or, il se trouve que cette intervention a été montée par Madame Elsa Faucillon, députée Val-de-Marne communiste, qui est une prof, c'est une prof universitaire, a été montée conjointement avec Mathieu Bellassène. Bon, c'est tiré même de l'ouvrage de Mathieu Bellassène sur abolir la contention.
Ah oui.
Or, il se trouve que Mathieu Bellassène a fait jouer, outre l'article 40 du Code de procédure pénale sur son obligation de signaler des voies de fait par rapport à l'isolement contention sur son établissement, là où il bossait lorsqu'il était chef de pôle, avant d'être déposé, mais également son pouvoir ou son devoir, comme on veut, de signaler ces mêmes faits au contrôle général des lieux de privation de liberté. Or, il faut savoir qu'une clause des saisies du contrôle général des lieux de privation de liberté fait que les gens qui signalent des voies de fait dommageables au contrôle général des lieux de privation de liberté ne peuvent pas être poursuivis ou inquiétés dans leur carrière pour cela. Bien. Et précisément, on l'a démoli pour cela, en prenant un prétexte, incident, une affaire dans l'affaire, comme il décrit si bien. Or, il est exact, et on avait discuté quand je suis monté avec lui pour une intervention à Besançon, pour le conseil local de santé mentale de Besançon, il est exact que si les agents hospitaliers hésitent fortement à se servir de l'article 40 du Code de procédure pénale, s'ils le connaissent, c'est précisément parce qu'il se trouve que les parquetiers au niveau des procureurs font du système navette et que les signalements qui leur sont envoyés sont dupliqués à l'autorité en question pour que l'autorité en question réponde aux questions éventuelles éventuellement une ouverture d'instruction préliminaire du parquet. Donc, si bien que immédiatement, l'autorité de poursuite transférant le signalement à l'autorité signalée, le fonctionnaire ou le contractuel va se trouver dans le viseur et dans le collimateur disciplinaire et hiérarchique de sa hiérarchie. Mmh. Bon. Et voilà. Donc, on est dans cet éternel circuit clos qui est que cette institution, l'institution psychiatrique, mais c'est dans la fonction publique en général, mais plus précisément dans celle-ci, qui tourne un peu à la façon d'une colonie pénitentiaire, hein, quelque part, hein, c'est un circuit clos totalitaire. Bon.
Oui.
Et c'est vraiment très ennuyeux. Si bien que des choses très graves, mais graves, gravissimes, des crimes,
ne sont même pas signalés par les agents publics pourtant écœurés et qui sont au courant de cela, parce qu'ils se disent « moi je peux pas, ma carrière » et par ailleurs il y a l'obligation de confraternité du code de déontologie médicale.
Alors ça c'est, en plus ça c'est bon, ça concerne les soignants lanceurs d'alerte en quelque sorte, mais il y a aussi, alors quand ce sont des patients c'est encore pire. En fait, c'est...
Alors bon ça, quand ce sont des patients n'en parlons pas, ouais. Mais pourquoi, alors à ce moment-là, si vous voulez, c'est ce qu'on faisait au groupe Information Asile, et c'est pour ça que moi ce que je fais c'est quand je reçois des choses comme cela, j'essaye d'avoir l'accord de la personne et je saisis le contrôle général de privation de liberté. Bon, on va pas m'emmerder, moi ça suffit quand même, faut pas exagérer. Et en plus, le contrôle, enfin en tout cas, Mme Dominique Simoneau fait attention, elle fait des retours. Voilà, il y a des, on a un système de réponse. Donc, mais c'est sûr que c'est une vraie question. Hein.
Voilà.
C'est d'autant plus une vraie question que maintenant, des affaires de viol, VSS, etc., sur personnes vulnérables sont soulevées à la faveur de la vague MeToo, sur laquelle on peut avoir quelques réserves d'ailleurs. Bon, mais toujours est-il qu'on sait que le corps soignant en psychiatrie, en santé mentale, est quand même passablement visé, quoi, je veux dire. Maintenant, il y a l'affaire... c'est pas hospitalier. L'affaire Gérard Miller, c'est des consultations libérales, voilà. Mais on sait que dans ces domaines, la relation d'emprise et la relation de domination, elle est sérieuse. Et par ailleurs, outre les affaires sexuelles, on sait que ce qui s'en ensuit d'une relation de domination féodale, c'est à peu près n'importe quoi. Faut pas oublier que dans la relation de domination féodale, la personne qui détient un pouvoir suzerain a un pouvoir de vie ou de mort. Faut pas l'oublier.
Voilà, donc... bon, après, il y a des choses... Alors, la réponse, évidemment, de la ministre, Madame Vautrin, à cette intervention, a été très... Bon, ben voilà... Oui, il existe plusieurs autorités qui ont un rôle à jouer pour veiller à l'équilibre tellement important entre le droit des patients et la préservation de leur état de santé. Et alors, combien de personnes ressortent en bonne santé dans ces programmes de soins ? Voilà. Et bon, alors elle évoque le rôle du JLD, de la CGLPL, elle donne une leçon comme ça, et de la CDSP aussi d'ailleurs. Qui...
Dont on sait que ça fonctionne merveilleusement bien.
Oui, autrement dire, pas du tout. Ouais. Et bon, voilà, elle propose d'encadrer, de faire voilà, de des promesses. Quoi.
Non, elle donne les réponses institutionnelles que la France donne, par exemple, à la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le handicap. Oui. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas.
Oui, d'accord.
Bon, alors c'est comme les JLD, le contre-judiciaire. Mais allez donc voir 12 jours de Raymond Depardon, le film novembre 2017. Allez voir, vous serez édifiés. Mm-hmm. Bon, non, alors les CDSP, on sait que ça ne fonctionne pas, ça a été fait pour. Ça me rappelle ce que les analystes qu'on faisait sur le projet de loi E20 au printemps 90, avant que la loi 90 soit adoptée, qui a introduit les CDHP, les commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, l'analyse qu'en faisait Philippe Bernardet. Qui disait, mais c'est une commission théodule, c'est fait pour chanter le contentieux et pour chanter les plaintes des malades. Ben, tout court, quoi. On en a une expérience. Bien.
Voilà. Eh bien, merci André pour ton passage à l'antenne. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Et puis on va écouter peut-être le gauchisme à la mode.
Ah oui, plus. Très bien, le gauchisme à la mode, lui, de Jean-Roger Cosimon.
Au revoir.
Je fais du gauchisme à la mode, oui j'ai lu ça dans un journal. C'est offensant, quoique banal, pourtant que la droite méthode. Si vous chantez la liberté, la justice, l'égalité, on vous traite de démagogue. Et dès que l'on vous catalogue, auteur dont il faut se méfier, de vous l'on écrit, c'est commode. Avec dédain, avec pitié, ce monsieur connaît son métier, il fait du gauchisme à la mode, il fait du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, mais que fait ce pouvoir d'argent qui prend souci des pauvres gens, mais juste en certaines périodes, quand pensionnés et retraités de quelques francs sont augmentés. Ce sont leurs voix que l'on racole. Ils vont voter dans les écoles. 8 jours plus tard, l'immobilier brandissant les foudres du code les expulse de leur quartier. Dressez constat, monsieur l'huissier, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, si quand je pense aux objecteurs traités comme des malfaiteurs, mon cœur point ne s'en accommode. Et que dire des étudiants que l'on fait chômeurs et mendiants, bien avant qu'ils n'aient leur diplôme. Quant au prince de son royaume, à l'intérieur bien intégré, mais je lui consacre une ode. Quand il traque les immigrés, non mon prince, mille regrets, je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode. Je fais du gauchisme à la mode, et l'on me dit manipulé. Et l'on croit pouvoir révéler à quel parti je m'inféode. Allons messieurs, soyons sérieux, tout simplement j'ouvre les yeux. Je suis témoin de mon époque, le succès présent je m'en moque. L'histoire d'hier à nos jours fut écrite par des rhapsodes, des rimeurs et des troubadours. Le temps des cerises est bien court.
C'était du gauchisme à la mode.
C'était du gauchisme à la mode. Mmh.